Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à du solide en électromagnétisme, avec les notes qu'on a sous les yeux, le champ électrique et la fameuse loi de Gauss.
Bonjour. Oui, des concepts piliers.
Le but, c'est de rendre ça le plus clair possible. Alors, on y va ? Décortiquons ça ?
Allons-y.
Bon, alors, le champ électrique. L'idée de base, c'est qu'une charge électrique, elle n'est pas juste là, posée. Non, elle change l'espace tout autour.
Exactement. Elle crée une sorte d'influence.
C'est ça. Et c'est un champ vectoriel. Ça veut dire qu'en chaque point, hop, il y a une petite flèche, un vecteur qui dit « si tu mets une charge ici, voilà la force qu'elle va subir
». Et la direction de la flèche donne la direction de la force.
Tout à fait. Et pour voir ce champ, pour le tester, on imagine une charge d'épreuve.
Ah oui, la charge d'épreuve. Il faut peut-être préciser. C'est une charge positive, par convention. Et surtout, on l'imagine si petite, si insignifiante qu'elle ne va pas elle-même modifier le champ qu'on essaye de mesurer.
C'est un outil théorique, en fait. Très pratique.
Oui, un outil conceptuel, voilà.
D'accord. Et ce champ, comment on se le représente? C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Les lignes de champ.
Ah, les lignes de champ. Visuellement, c'est très parlant.
Carrément. Imaginez des lignes qui partent des charges plus et qui vont se terminer sur les charges moins. La direction de la ligne en un point, c'est la direction du champ, donc de la force.
Et leur densité, c'est ça qui est important aussi.
Oui. Si les lignes sont toutes serrées, ça veut dire que le champ est intense à cet endroit. Si elles sont espacées, le champ est plus faible.
C'est un peu comme une carte de niveau, mais pour l'intensité et la direction du champ.
C'est une bonne image. On peut les dessiner pour une charge toute seule, ou alors pour deux charges, un dipôle par exemple. Et on voit bien comment le champ se dessine entre elles.
Et elles ont des propriétés, ces lignes, non ? Des règles à suivre ?
Oui, absolument. Par exemple, elles ne se croisent jamais. Logique, sinon le champ aurait deux directions au même point.
Et ce qui n'est pas possible physiquement pour un champ électrostatique.
Voilà. Et elles arrivent perpendiculairement à la surface d'un conducteur.
En équilibre électrostatique, oui. Des propriétés importantes?
Bon, mais dans la vraie vie, on n'a pas toujours juste des petits points chargés. Souvent, les charges sont étalées.
Réparties, oui.
Sur une surface, comme une plaque ou le long d'un fil. C'est ça. Et là, on parle de distribution continue de charges?
On introduit alors les densités de charges. Linéaire, si c'est sur un fil, donc charge par mètre. Ou surfacique, sur une surface, charge par mètre carré.
Ça permet de passer du microscopique au macroscopique, en quelque sorte.
Tout à fait. C'est indispensable pour traiter des objets réels.
Ok. Pour aller plus loin, il faut un autre concept, le flux. Le flux du champ électrique.
Oui, le flux. On peut imaginer l'écoulement de l'eau à travers un cadre, par exemple. Le flux, ça mesure combien d'eau passe à travers le cadre par seconde.
D'accord, l'analogie avec le fluide.
C'est ça. Pour le champ électrique, le flux à travers une surface, c'est un peu pareil. Ça mesure, en gros, le nombre net de lignes de champ qui traversent cette surface.
Nombre net. Ça veut dire qu'on compte positivement si ça sort et négativement si ça rentre.
Exactement. Si au total, il y a plus de lignes qui sortent que de lignes qui rentrent, le flux est positif. Ça quantifie combien de champs traversent cette surface, dans quel sens globalement.
Et ça nous amène tout droit au théorème de Gauss, un gros morceau carré.
Ah oui, Gauss, un outil d'une puissance remarquable.
Il dit quoi, simplement ?
Que le flux total du champ électrique qui sort d'une surface fermée...
Une surface imaginaire, comme une bulle qui enferme un volume...
Eh bien, ce flux total est directement proportionnel à la charge électrique totale qui se trouve à l'intérieur de cette surface.
Voilà. Et c'est là toute l'astuce et la beauté de la chose. Ce qui se passe à l'extérieur de la surface, les charges qui sont dehors, eh bien, elles ne comptent pas pour le flux total à travers la surface fermée.
C'est assez fou quand on y pense. Le flux ne dépend que de ce qu'il y a dedans. Et ça devient incroyablement utile pour calculer le champ électrique. Mais attention.
Oui, la condition ?
La symétrie.
Ah.
Le théorème est toujours vrai, mathématiquement. Mais pour qu'il nous aide à trouver le champ facilement, il faut que la situation soit très symétrique.
Comme les cas décrits dans les notes, j'imagine.
Précisément. Symétrie plane, un grand plan chargé uniformement. Symétrie cylindrique ou axiale, un long fil rectiligne chargé. Ou symétrie sphérique, une sphère chargée uniformement.
Et dans ces cas-là, on choisit une surface de Gauss intelligente, c'est ça ? Une surface qui épouse la symétrie.
Exactement. Une surface sur laquelle le champ a une valeur constante, ou est parallèle ou perpendiculaire à la surface, ce qui simplifie énormément le calcul du flux. Et hop, avec Gauss, on trouve le champ presque sans calcul intégral compliqué.
Impressionnant. Pour un plan infini, pour un fil infini, pour une sphère, grâce à Gauss et la bonne densité de charge, ça devient simple.
C'est la puissance de l'exploitation de la symétrie en physique. C'est élégant, non ? Une loi simple qui régit tant de choses.
Absolument. Alors, si on récapitule, on a vu le champ électrique, cette modification de l'espace, les lignes de champ pour le visualiser, avec leur densité qui donne l'intensité.
Oui.
Le flux pour compter combien de champs traversent une surface.
C'est ça.
Et le théorème de Gauss qui relie ce flux à la charge intérieure et qui est hyper puissant si on a de la symétrie.
Belle synthèse. Et cette élégance, elle est profonde. Les notes mentionnent d'ailleurs l'analogie avec la gravitation.
Ah oui, le champ 1 sur r carré comme pour la gravité d'une planète.
Exactement. La forme mathématique est très similaire pour une source ponctuelle.
Ce qui ouvre une question, peut-être pour terminer, si ces deux forces fondamentales, l'électrostatique et la gravitation, malgré leurs différences énormes, partagent des lois mathématiques si semblables pour leur champ, qu'est-ce que ça pourrait nous dire ?
Sur une éventuelle unité plus profonde dans la nature.
Peut-être. Ou, plus largement, comment ces idées de champ, de flux, de loi, comme celle de Gauss, s'appliquent ou inspirent d'autres domaines de la physique, au-delà de l'électricité. Voilà une piste de réflexion.